Tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Auditeurice de Nantes ou d'ailleurs, bonjour, bienvenue sur la planète de la Ligue des droits humains, section Nantes, autrement dit la LDH nantaise. Et bienvenue aussi au bar Personne. Vous le savez, c'est ici que nous enregistrerons tous les mois la chronique de la LDH nantaise à 18h30. Bien que vous le sachiez, c'est toujours bon de le redire. Pour cette chronique, nous allons causer santé. Anne, Jean-Luc, Élodie et Nathalène, bonjour. Nous allons commencer par faire un tour de l'actualité des groupes de travail et des collectifs dans lesquels la section est engagée. C'est parti pour le premier groupe de travail. Le collectif, non pas un groupe de travail d'ailleurs, c'est un collectif. Le collectif Prison 44, dans lequel la LDH est présente, a organisé et va organiser cette année les ciné-débats pour les 31e journées des prisons, dont voici le programme. En bref, le 21 novembre au Montagnard, vous aurez, qui est à la montagne, le film documentaire Le Temps Mort. Le 25 novembre au cinéma Bonne Garde, vous aurez aussi Le Temps Mort. Le 26 novembre au ciné Toile de Ré à Pornic, vous aurez Danser sa peine. Le 27 novembre, Lutetia à Saint-Herblain, vous aurez Thé à Tchapi. Le 28 novembre, toujours au Montagnard, de retour à la montagne, vous aurez Rebelote, Thé à Tchapi. Et le 29 novembre, au Cinématographe à Nantes, vous aurez Dansé sa peine. Voilà pour le collectif Prison 44. C'est maintenant le groupe de travail numérique et liberté.
Oui, alors le 12 octobre a eu lieu la deuxième session de la formation des échanges numériques, co-organisée avec le groupe de travail communication. Le 31 octobre, pendant le festival Les Utopiales, a été présenté le jeu Rien à cacher, co-conçu par la Ligue des droits de l'homme, que vous pouvez d'ailleurs trouver dans la boutique LDH. Pour le groupe de travail Droits des enfants, Nathalène.
Le 20 novembre se tiendra la Journée internationale des droits de l'enfant, occasion à laquelle une action du collectif des mineurs non accompagnés se tiendra. Ensuite, pour le groupe de travail femmes.
Le 23 novembre aura lieu une manifestation ou et rassemblement dans les rues de Nantes contre les violences faites aux femmes, dites violences sexistes et sexuelles. Ce sera le 23 novembre, tout en sachant que c'est le 25 novembre qui est la journée anniversaire internationale de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. En ce qui concerne l'intercollectif Personne à la rue, Annie.
Personne à la rue. Le 1er novembre, l'intercollectif a organisé une déambulation dans Nantes et une collecte-redistribution devant la préfecture. Tout ça pour fêter le début de la trêve hivernale. Chic, pendant 6 mois, personne ne pourra être expulsé de son logement.
Et pour le groupe de travail contre les idées d'extrême droite, à la suite du travail unitaire fait pour que l'extrême droite n'obtienne pas une majorité lors des élections législatives, des associations et syndicats continuent de se retrouver afin d'agir pour, d'une part, exiger du gouvernement des réponses à l'urgence sociale, environnementale et démocratique, et d'autre part, lutter face aux idées d'extrême droite.
Et pour la plateforme des ONG pour la Palestine, nous vous rappelons qu'il y a un rendez-vous hebdomadaire le samedi à 16h, place Royale.
Bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, vous attendez le train de 8h40 ? Il a du retard, non ?
Ah, pas du tout. Moi, j'attends mon rendez-vous avec le docteur Guéry.
Un docteur ? Dans une gare ?
Oui, il est là-bas, dans la boîte.
Dans la boîte ?
Enfin, pas vraiment. Dans la cabine. Derrière l'écran qui est dans la cabine.
Derrière l'écran. Mais c'est pas un petit peu moins...
Bon, pas du tout, c'est très pratique. Il y a tout ce qu'il faut. Stéthoscope, appareil pour l'attention. Il y a même une petite caméra que je mets dans ma bouche et le docteur Guéry peut voir ma glotte. Il me guide, je m'ausculte et il me soigne. À la fin, un petit ticket sort de la boîte et hop, j'ai mon ordonnance.
Oh, bah c'est drôlement moderne.
Ça m'évite de prendre le train. Avant, je faisais 300 km pour voir un médecin.
Oh, plus de désert médical.
Et ça va plus vite. 10 minutes, pas plus. Imaginez, 10 minutes par rendez-vous. Le docteur Guéry peut en faire 6 en 1 heure et 42 en 7 heures.
Merveilleux. Mais Vous faites comment pour un examen gynécologique, par exemple ?
Ah ben, c'est plus compliqué, ça demande plus d'autonomie. Mais maintenant, au moins, ce ne sont plus les retards de la SNCF qui m'agacent, ce sont les retards du docteur Guéry.
Et voilà une petite scénette pour nous mettre directement au plus vif de notre sujet, à savoir la santé, pour le sujet de notre chronique. Alors, c'est fictif, bien entendu, mais on parle quand même des espaces de télémédecine qui existent dans les gares et que, visiblement, la SNCF veut étendre. Alors, la télémédecine, innovation ou régression, Jean-Luc ?
C'est une innovation, mais je ferai remarquer qu'elle ne supprime pas des médecins. Donc, en fait, ça ne résout rien. Ça met de la distance entre le patient et le médecin. Alors que prendre soin, c'est exactement l'inverse.
Très bien. On va écouter maintenant le témoignage de Anne Gruand, qui est une habitante et militante du Clos Taureau.
Depuis décembre 2023, presque un an, nous n'avons plus de médecin traitant, puisqu'elle est partie en retraite après 37 ans d'exercice dans le quartier. Par sa présence, on s'est vraiment rendu compte de l'importance d'avoir un médecin dans un quartier populaire où les gens n'ont pas forcément le réflexe d'aller se soigner rapidement pour des petits bobos. Donc quand ils vont se soigner, c'est souvent tard. Et puis aussi parce qu'il y a la problématique de la langue qui fait que c'est compliqué tout de suite de se déplacer, d'aller loin. Là, il y avait une vraie proximité avec une salle d'attente qui faisait que voilà, on arrivait toujours à avoir un rendez-vous. Et du coup, bah, ça montre le besoin criant de médecins dans les quartiers populaires. On s'est battu, on a fait une petite vidéo pour attirer des médecins. Pour l'instant, on n'a pas eu de succès. Mais on a quand même découvert que dans les quartiers populaires, il y avait moins de médecins sur la ville de Nantes que dans le reste des autres quartiers. Autrement dit, dans les quartiers où il y a besoin le plus de médecins, et bah, c'est là où il y a le moins de médecins généralistes. Ça dit quelque chose de la stigmatisation dont on souffre dans les quartiers populaires. Et pourtant, si les médecins étaient venus au pot de départ de notre toubib, il y aurait une liste d'attente parce qu'il y avait plus de 200 personnes, 4 générations. C'était très convivial et les gens, ils aiment les médecins. Donc, c'est pas ici qu'on va pas tenir compte de ce qu'un médecin nous recommande. Quoi. Voilà.
Jean-Luc, est-ce qu'on peut dire que le cas d'Anne est isolé ?
Non, c'est une situation qui est générale en France. Et contrairement à ce qu'on croit, également dans les grandes villes comme Nantes et dans les quartiers populaires des grandes villes. C'est comme vient de le dire Anne, et elle aurait pu préciser que non seulement il y a moins de médecins généralistes, mais il n'y a aucun médecin spécialiste. Et il n'y a aucune raison médicale, de santé publique, que les médecins spécialistes soient tous regroupés dans les quartiers UP.
On va maintenant écouter le témoignage de Henri.
J'ai un corps qui est usé. Déjà à 34 ans, j'ai toujours arrêté le métier de carreleur. Après, j'étais enseignant à l'AFPA. Et là, ça a été moins dur, sauf que c'est le moment où je me suis marié, on a eu 4 enfants, on a acheté la maison, on fait les travaux, enfin tout s'est enchaîné. Quoi. J'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire, quoi, sans doute. Puis je suis né en 39, traversé la guerre, famille de 7 enfants, qui fait que je faisais même du rachitisme étant jeune, toi. Est-ce que c'est ça que je paye maintenant ? J'en sais rien. Bon, les points forts que j'ai, c'est le dos, un peu le névrosite plantaire, c'est-à-dire la voûte plantaire qui est inflammée depuis bien 30 ans. J'ai fait 6 podologues. Je vais en faire un autre là, qui va peut-être me donner des rayons au laser. La pubalgie, là. Je suis insuffisant cardiaque, j'ai été opéré du cœur en 2009. Je résume, j'ai de la peine à rester assis. J'ai de la peine à rester debout à cause de mes pieds. Au pied gauche, j'ai trois points douloureux. Un névrose de Morton, un lus vagus à l'articulation et une épine calcanienne.
Et si je comprends bien, il y a une grosse difficulté à trouver, à avoir une prise en charge
globale.
Globale.
Ouais.
Prise en charge d'abord juste de médecins adaptés aux
ouais.
différentes problématiques.
Oui.
Alors là, le témoignage d'Henri, là. Montre bien d'une part que on peut s'user physiquement et là également psychiquement parce que en fait il y a une difficulté d'accès aux soins, difficulté d'accès aux soins de par les délais d'obtention d'une consultation alors que l'on souffre, également par la pratique des dépassements d'honoraires qui, pour les personnes avec des moyens financiers réduits, eh bien, ne peuvent pas faire face. Et à l'hôpital, ils peuvent se faire soigner, et encore pas toujours, parce que l'hôpital maintenant ne répond plus à l'ensemble des besoins de santé et de soins, et dans des délais souvent beaucoup plus longs. Par ailleurs, ce patient qui souffre n'arrive pas à trouver, et ses médecins, son médecin traitant, n'arrive pas non plus à trouver des médecins spécialistes qui puissent le soulager, car c'est ce qui, dans son témoignage, est au premier plan, c'est la douleur continue, quelle que soit la position, il n'y a plus de repos possible. Donc avec une souffrance psychique qui en découle.
Et alors, le gouvernement espère réaliser une économie de près de 15 milliards d'euros sur le prochain budget de la Sécurité sociale, en baissant notamment le remboursement de la part de l'assurance maladie sur les consultations chez le médecin. Quels sont les risques, voire les dangers d'une telle mesure ?
Le risque, il est très clair. Maintenant, pour une consultation chez le médecin généraliste qui va passer à 30 euros là, au mois de décembre, eh bien, le reste à charge pour les patients sera de 13,20 euros, ce qui est sans mutuelle. Mmh. Et ceux qui ont une mutuelle, les mutuelles vont augmenter d'au moins 10% les cotisations. Et donc, en fait, ça va aboutir à encore plus de renoncements aux soins ou de délai dans la prise en charge, avec donc une aggravation possible de l'état de santé, parce qu'on laisse courir une maladie qui au départ n'est pas grand chose et puis qui se complique. Voilà.
Et dans cette même logique de réduction des dépenses, que faut-il penser du projet de remise en cause de l'aide médicale d'État, Annie ?
Alors l'aide médicale d'État aujourd'hui, donc qui a été conçu pour les personnes étrangères en situation irrégulière sur le territoire, puisque quand même en France, finalement, on a pensé qu'il fallait soigner tout le monde, quelle que soit leur situation administrative ou financière. Donc en fait, cette aide médicale d'État qui a été mise en place en 2000, aujourd'hui coûte 1,1 milliard à l'État. Ce qui représente 0,4% du budget de la Sécu, il faut quand même le dire. Seulement 0,4%. 50% des personnes, d'ailleurs, n'y ont pas recours. L'objectif de l'aide médicale d'État, c'est de traiter les maladies avant qu'elles ne deviennent graves. Donc si on supprime l'aide médicale d'État, eh bien, finalement, les personnes ne vont pas se soigner. Donc il n'y aura pas de prévention, il n'y aura pas de suivi. Les maladies vont se chroniciser. Et finalement, ça va amener tout le monde aux urgences. En Espagne, en 2012, ils ont supprimé quelque chose qui correspondait à peu près à ça. Et ils l'ont rétabli en 2018. Pourquoi l'ont-ils rétabli ? Parce que finalement, il y avait une augmentation de l'incidence des maladies infectieuses, une surmortalité des migrants de 15% sur 3 ans. Et donc, en 2018, ils l'ont rétabli. Donc voilà. Jean-Luc, tu voulais...
Oui, je voudrais rajouter que si on supprime l'aide médicale d'État, ça va à l'encontre du serment d'Hippocrate, qui dit très clairement « Je ne permettrai pas que des considérations de croyances, d'origine ethnique, de genre, de nationalité s'interposent entre mon devoir et mon patient. »
Mais on peut donc penser que ça ne pourrait pas passer, une telle loi, si, à partir du moment où justement...
Alors, quand la loi de immigration est passée là, en janvier 2023, elle a été une partie des articles ont été retoqués par le Conseil constitutionnel. Mmh. Et la question de l'aide médicale d'État, le Conseil constitutionnel n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Donc voilà.
Oui,
Jean-Luc. Et toutes les autorités médicales, ont dit que c'était un non-sens et se sont élevées contre cette hypothèse.
Et il y aurait un problème de santé publique parce que les personnes migrantes sans statut sont extrêmement précaires. Donc, les maladies se chronicisent. Les maladies infectieuses transmissibles se transmettent de plus en plus. Donc, en fait, il y a un problème de santé publique. Voilà.
Dans nos campagnes, on cherche des docteurs, y a personne. Des cabinets vides, le désert médical résonne. Les patients se battent, à des kilomètres ils roulent. Des mois d'attente pour une consultation, ça saoule. Les urgences débordent, le personnel est à bout. Faute de moyens, on presse, mais rien ne sort du trou. On soigne par espoir ou par dépit. Parfois le choix c'est d'attendre, ou bien c'est la vie qui fuit. Faut qu'on soigne, qu'on répare ce système en panne. Investir, recruter, c'est pas juste un plan, c'est un combat. Remettre l'humain au cœur des soins, c'est ça l'essentiel. Les jeunes médecins, on les motive, on les installe, c'est réel. Rénover nos hôpitaux, soutenir nos vieux. Faire du bien-être commun, un objectif précieux. Les budgets qu'on coupe, les lits qu'on supprime. On sacrifie nos vieux, c'est un crime. Ils finissent dans des EHPAD surchargés, isolés. On oublie leur histoire, leur voix et leur dignité. Les soignants crient mais on n'écoute pas. La pression monte et les burn-out suivent le pas. On perd des talents, des vies épuisées. Pour combien de temps encore va-t-on tout laisser tomber? Faut qu'on soigne, qu'on répare ce système en panne. Investir, recruter, c'est pas juste un plan, c'est un combat. Remettre l'humain au cœur des soins, c'est ça l'essentiel. Les jeunes médecins, on les motive, on les installe, c'est réel. Rénover nos hôpitaux, soutenir nos vieux. Faire du bien-être commun, un objectif précieux. Des patients sur liste, des diagnostics en suspens. Le parcours de soins ressemble à un labyrinthe sans sens. Les jeunes démunis.
Jean-Luc, c'est toi qui as choisi cette chanson. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette chanson ?
Eh bien, parce que je trouve qu'elle... alors, c'est un infirmier à la retraite qui a écrit cette chanson et qui a également composé la musique et qui l'interprète et qui la donne gratuitement pour une utilisation à tous ceux qui luttent pour... Un réel accès aux soins et à la santé. Voilà. Donc je trouve qu'en plus, il résume bien et de manière agréable, enfin, tout, agréable pour moi, en tout cas j'espère pour vous, tous les problèmes posés par l'austérité en santé qui était appliquée depuis des dizaines d'années par différents gouvernements successifs.
Et justement... Du coup, comme il dit, la santé, c'est vital. Mais est-ce que l'hôpital, aujourd'hui, peut encore faire face à ses missions ?
Je dirais que la santé, c'est vital. La sécu aussi, c'est vital. Voilà. L'hôpital, c'est vital. Parce que tout simplement, les services publics, et donc l'hôpital public, c'est la richesse de ceux qui ne possèdent rien. Et donc, quand il est attaqué, en fait, on s'attaque aux plus faibles. Et dans leur accès, en ce qui concerne l'hôpital, à leur accès aux soins. quand ils ont une santé qui est, comme on l'a vu tout à l'heure dans le témoignage d'Henri, qui est gravement, gravement atteinte. Alors, l'hôpital a subi vraiment des attaques successives, brique par brique, on le démonte. Brique par brique, on le casse. Et actuellement, l'hôpital public est à l'os. Et tout le monde s'en rend compte, puisqu'on n'arrive plus à faire... Enfin, on arrive difficilement à se faire soigner et quand on a un rendez-vous, éventuellement on reçoit un coup de téléphone en disant ben, on est désolé mais on ne peut pas, il ne faut pas venir aujourd'hui, c'est reporté, reporté quand ben, on vous rappellera quand on aura une place au bloc opératoire, quand on aura une place en réanimation, quand on aura une place dans le service, quand on aura une place pour vous faire un IRM, etc. Voilà.
Quand tu dis brique par brique qu'on le casse, qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer plus précisément? Tu penses à quoi exactement?
Alors, je pense aux fermetures. Aux fermetures de lits dans les services, aux fermetures de services, aux fermetures d'hôpitaux qui maintenant deviennent très rares. On ne ferme pas un hôpital. On le transforme et on le vide de son sens. Et c'est également avec une difficulté maintenant à recruter du personnel pour venir travailler à l'hôpital parce que les conditions de travail deviennent insupportables et contraires à la logique du soin. Donc les gens s'en vont, quelle que soit leur catégorie professionnelle, parce qu'ils ne peuvent plus exercer leur art.
Alors dans la chanson, il dit qu'il faut qu'on soigne ce système en panne. Quels seraient les soins apportés à cet hôpital public?
Eh bien, c'est de rejeter le plan de financement de la sécurité sociale qui est en discussion actuellement à l'Assemblée et qui... prévoit encore une aggravation de l'austérité parce qu'il est légèrement en hausse mais en fait quand on voit simplement ce qu'il faut pour maintenir l'hôpital à niveau et puis faire face à la vie chère parce que les prix augmentent aussi là-bas, eh bien en fait c'est une régression des moyens pour la santé et notamment pour l'hôpital public. Donc en fait la situation que l'on connaît va s'aggraver. Et c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut investir dans l'hôpital public, lui permettre de se rénover, de se développer et d'autre part avoir du personnel correctement payé et dont le travail soit reconnu et en nombre suffisant pour ne pas être rappelé sur ces temps de congé, sur ces temps de repos et avec des horaires qui changent tout le temps et qui ne permettent pas une vie familiale, une vie personnelle harmonieuse, heureuse, et qui donc on arrive à la fois fatigué au travail, et puis quand on quitte le travail, on a l'impression de ne pas l'avoir fait correctement. Et donc au bout d'un moment, ça devient insupportable, on sauve sa peau, on s'en va.
Et alors justement, là, par rapport au budget 2025, donc on a l'impression qu'il y a beaucoup d'économies qui veulent être faites. Le problème, quand on écoute Annie par rapport à l'AME, on se dit qu'on va avoir de plus en plus de malades entre mal soignés et même les membres du personnel, si tout le monde finit en burn-out.
C'est-à-dire que tout le monde ne devient pas malade, mais on fait la médecine à 2, à 3, à 4 vitesses. C'est-à-dire que ceux qui auront les moyens financiers pourront se faire soigner et les autres ne pourront pas. En fait, on aggrave les inégalités de santé et d'ailleurs ce qui est reconnu, la France, la France maintenant est si ma mémoire est bonne, au 20e rang en ce qui concerne la mortalité néonatale. Voilà. Alors qu'on était au premier rang il y a 20 ans. Et entre deux, on a fermé des maternités. On peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une relation de cause à effet.
J'ai l'impression que nous arrivons tout doucement vers la fin de cette chronique. Est-ce que quelqu'un, quelqu'une a quelque chose à ajouter, quelque chose qui aurait été oublié, qui vous semble important?
Un tout petit point sur l'aide médicale d'État. Comme son nom l'indique, c'est l'État qui paye, c'est pas la Sécu. C'est-à-dire que les actes réalisés sont enregistrés par la Sécurité sociale et ces actes sont remboursés aux soignants. Mais l'État compense entièrement ces remboursements. Donc en fait, c'est des crédits d'État. C'est absolument pas les cotisations qui payent l'AME.
Annie, je sens que tu brûles quelque chose.
Oui, par rapport toujours à l'aide médicale d'État, l'objectif, c'est de faire des économies si on l'a supprimé. Mais c'est aussi de penser qu'il y aura beaucoup moins de migrants, parce que tout le monde sait que du fin fond du Togo ou bien de la Syrie en guerre, les gens accourent en France parce qu'il y a l'aide médicale d'État. Mmh. Donc, effectivement... il faut faire attention à tout ça.
Nathalène ?
J'aurais bien fait un petit point sur la santé mentale, qui est un peu le grand, je ne sais pas comment dire, mais dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et en même temps, on sait qu'il n'y a jamais eu moins de lits en psychiatrie. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire quelque chose, Jean-Luc ?
Ah oui. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit sur la médecine, la chirurgie, l'obstétrique, vous multipliez par 10, puis vous avez la situation en psychiatrie. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, et effectivement, avec des besoins qui en plus augmentent. Et ce qui est prévu avec 2025 santé mentale, c'est de la poudre aux yeux. C'est véritablement de la poudre aux yeux. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des moyens supplémentaires, on va mettre en place des plateformes d'orientation. D'orientation vers quoi ? Vers le désert. Donc c'est vraiment pour amuser la galerie, pour faire croire que on peut... Et là encore, que si ça va mal, c'est parce que les gens ne trouvent pas le bon médecin. C'est pas ça le problème, c'est qu'ils n'en trouvent pas. Et que par ailleurs, tout à l'heure, on parlait des cabines, de la télémédecine, etc. Vous vous rendez bien compte qu'en en psychiatrie, qu'est-ce que c'est que la maladie psychiatrique ? C'est un trouble de la relation à l'autre. Donc si on supprime, si on ne peut plus soigner en rentrant en relation, mais il n'y a plus de psychiatrie. Moi, j'appelle ça la chimiatrie et non pas la psychiatrie.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Alors c'est ici que nous allons pas tarder à nous dire au revoir. Un petit rappel des dates à venir, à savoir qu'aujourd'hui, mercredi 6 novembre... il n'est pas trop tard, venir à 19h30 assister à une soirée débat sur le thème du handicap invisible à la Manu. Le 20 novembre, n'oublions pas qu'il y a la journée internationale des droits de l'enfant. Le 25 novembre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une journée de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Cependant, il faudra être un petit peu en avance parce que c'est le 23 novembre que le rassemblement, les manifestations auront lieu. Nous n'avons pas exactement le fin mot de cette organisation, tenez-vous informés. Par ailleurs, si vous avez des réactions, des questions ou des réponses, écrivez-nous à nantes@ldh-6france.org. Et d'ici le prochain plateau, où nous vous retrouverons à 18h30, bien entendu, le mercredi 4 décembre, en direct au bar Personne, nous vous souhaitons de très belles écoutes sur les ondes de Jet FM, la station des droits et des libertés.